Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Coronavirus et l'alcool, quels sont les risques? Professeur Ndelo Dipanzu Josaphat, toxicologue, est notre invité. Bonjour professeur.
Bonjour mon frère.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Vous voulez participer à cette émission, fidèles auditeurs? Eh bien, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez également vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Polydor Bansunga à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la réalisation, Marcel Ngombo à la coordination. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
À l'occasion des 75 ans des Nations Unies, retrouvez sur les antennes de Radio Okapi l'histoire de l'engagement de la République démocratique du Congo dans le système onusien. L'accompagnement de l'Organisation mondiale dans le processus de développement et de stabilisation de l'RDC. Ensemble avec la famille de l'ONU.
Radio Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi. Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Okapi Service. Okapi Service. Coronavirus et l'alcool. Quels sont les risques depuis le début de l'épidémie de coronavirus? Une rumeur, une folle rumeur selon laquelle l'alcool était un remède pour combattre les virus s'était vite propagée. Beaucoup de personnes sont convaincues que les boissons alcoolisées aideraient à guérir du Covid-19. Pour les experts, la consommation excessive d'alcool, déjà peu recommandée en temps normal, peut s'avérer plus dangereuse encore en période de pandémie. Dans certains quartiers populaires de Kinshasa, par exemple, l'alcool frélaté coule à flot. Les jeunes font des cocktails d'aguené et de whisky dénommés Matrapa afin de renforcer le système immunitaire. Coronavirus et l'alcool, quels sont les risques? Professeur Ndelo Dipanzu Josaphat, toxicologue. Et notre invité, professeur, encore une fois, bonjour.
Bonjour, mon frère.
Alors, vous avez certainement entendu parler de cette rumeur selon laquelle l'alcool peut guérir de coronavirus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Évidemment, on a entendu parler de beaucoup de choses. Vous savez, au début, dès que le Covid-19 est arrivé, parce que les gens étaient tellement paniqués que chacun essayait de chercher une solution. Et alors, les bruits de toutes sortes venaient de gauche à droite. Et alors, tout le monde, vous rappelez que, par exemple, une famille était une femme au niveau de Mongafula avait malheureusement eu un accident avec ses trois enfants à cause des Congo Bololo, ainsi de suite. C'était la même chose avec l'alcool. Les gens se sont dit, l'alcool doit nécessairement brûler le virus. Donc j'ai entendu parler de ça.
Voilà. Est-ce que vous êtes spécialiste, vous êtes toxicologue, est-ce que l'alcool, quels sont les éléments dans l'alcool qui peuvent combattre les virus?
Donc les gens ont commencé à utiliser n'importe quoi, mais dans l'alcool, il n'y a rien qui puisse faire qu'on puisse penser que ça puisse aider contre la Covid-19. Il y a l'éthanol, c'est H3CH2OH. Et alors, le métabolisme va donner l'acétaldéhyde, qui est un poison plus violent encore que l'alcool. Et La cétaloïde, à son tour, donne l'acide acétique, qui est un poison métabolique. Donc, il n'y a rien, absolument rien dans l'alcool qui puisse faire qu'il puisse guérir la COVID-19.
Voilà, il y a pratiquement rien d'alcool dans l'alcool qui peut guérir. Alors, par ailleurs, qu'est-ce que l'alcool peut produire dans le corps, surtout de ces jeunes gens qui font des mélanges terribles actuellement? Ils mélangent les aguenés, l'alcool frélaté avec du whisky. C'est devenu fréquent dans les quartiers populaires de Kinshasa.
Oui. D'abord, je voudrais dire que le phénomène est mondial. Partout, que je sois en Inde, en Afrique, dans certains pays, dans quelques autres pays d'Afrique, et même en Amérique, surtout au Mexique, l'alcool frélaté, donc avec des mélanges et tout ça, ça explose. Au départ, l'alcool frélaté, c'est quoi? C'est de l'alcool qu'on a coupé avec du méthanol. Méthanol, je pourrais dire que c'est le petit frère de l'éthanol. Mais attention, il est plus virulent que l'éthanol. Il amène la cécité, des maux de tête, beaucoup, beaucoup d'autres problèmes, ainsi de suite. Alors, à travers le monde, qu'est-ce qui arrive? C'est à cause aussi, non seulement de la recherche de quelque chose qui peut traiter, mais aussi la psychose amenée par COVID-19, le stress amené par COVID-19, le fait qu'on n'a rien à faire, ça a poussé les gens, et ça pousse encore les gens à pouvoir aller chercher l'alcool pour se détendre, pour faire ceci, cela. Et alors, il faut avoir de l'alcool aussi fort qu'on peut. Et quand on prend maintenant l'alcool ordinaire, on se dit que ça ne va pas aller. Il faut compliquer encore, il faut ajouter divers ingrédients. Et c'est comme ça qu'on arrive à des catastrophes. Surtout si on ajoute le méthanol, c'est une catastrophe à mille autres pareilles. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de cas de décès à travers le monde dans les divers pays que j'ai cités ici. Donc je voulais dire, c'est le problème aussi de la psychose, du stress amené par COVID-19 qui fait que les gens, ça donne à pouvoir aussi chercher l'alcool, en plus d'avoir de penser que ce produit-là pourrait les sauver de COVID-19.
Voilà, donc c'est le stress qui est amené par la maladie qui poussait les gens à prendre beaucoup plus d'alcool. Mais oui. Peut-être certains pensent que l'alcool peut guérir de coronavirus. Lorsqu'ils entendent parler des solutions hydroalcooliques, ils se disent que ben voilà, il faut prendre un peu d'alcool et ça va aider.
Oui, mais bien sûr. Vous savez, l'ignorance est capable de faire commettre aux gens de faire des bêtises aux gens. Tu vois, quand les gens entendent une solution hydroalcoolique, effectivement, ils se disent, mais enfin, mais si on met sur le main et que ça sauve, et que ça permet de tuer les germes qui sont sur la main, alors si on prend, si on boit ça, eh bien, ça devrait pouvoir tuer le virus. C'est impossible. Impossible parce que le virus, il n'est pas dans la bouche, il n'est pas dans le tube digestif. Le virus, il est au niveau, à certains niveaux, qui ne vont pas être atteints par votre alcool. Et puis, c'est vraiment tellement dangereux. Vous comprenez? Et donc, maintenant, le danger provient du fait que il y a divers mélanges qu'on fait. Je viens de vous parler du mélange avec le méthanol. Là, ça pique carrément. Dans beaucoup de pays à travers le monde, ils mettent le méthanol. Chez nous, on va mettre beaucoup d'autres histoires. On met le tangawisi, on va prendre le whisky, on mélange divers whisky et on fait augmenter comme ça, on augmente très fortement le degré alcoolique. Plus le degré alcoolique monte, plus l'alcool devient dangereux. Et lorsque on est habitué à prendre ça régulièrement, on va avoir une intoxication chronique. Dans l'alcool, nous avons deux intoxications qui ont lieu. D'abord, l'intoxication aiguë. Vous êtes à une fête, vous prenez l'alcool, et à un moment donné, vous êtes sous. Ça, c'est l'intoxication aiguë. Cette intoxication aiguë peut vous amener à commettre pas mal de bévues. Parce que cette intoxication aiguë va vous enlever le sens du, comment je pourrais dire, du sens de responsabilité. Vous ne pensez plus à rien du tout. Vous êtes capable de vous déshabiller, de danser de n'importe quelle manière, d'offrir, de faire n'importe quoi.
Oui.
Alors maintenant, lorsque vous allez commencer à vomir, vous allez avoir donc des effets de vomissement, et vous allez vomir sur les gens, vous allez faire n'importe quoi. Et ça, c'est très grave. Et à un moment donné, vous êtes dans le coma parfois si vous continuez à boire, et vous perdez totalement le nord. Et vous êtes parfois dans une rigole, ou bien vous faites pipi aussi dans votre culotte. Ce sont des choses que nous voyons, et c'est grave parce que parfois des grandes personnes arrivent à faire des choses comme ça. Ça, c'est l'intoxication aiguë. Mmh.
Professeur Ndelo, est-ce qu'on peut dire que la prise de l'alcool expose beaucoup plus les consommateurs à développer, à attraper coronavirus?
Mais absolument, puisque ça va réduire la force de résistance de l'organisme, ça c'est clair. Donc on atteint le résultat contraire. Puisque pour lutter contre la COVID-19, vous devez avoir votre immunité au sommet, vous devez avoir votre corps en pleine forme. Or, vous l'affaiblissez en prenant l'alcool. Donc, automatiquement, votre corps devient moins résistant. Et automatiquement, COVID-19 est toute heureuse de pouvoir venir vous attaquer parce que vraiment, elle passe comme l'être à la poste, comme on dit. Il faut être, contre COVID-19, vous devez avoir un corps solide, dont on donne la solidité en prenant des produits comme les aliments, comme les végétaux, comme on appelle ça, les légumes. Mmh. Beaucoup de légumes forts. C'est très important.
Bien.
En prenant des fruits ainsi de suite, parce qu'il y a beaucoup de vitamine C.
Bien, professeur Ndelo, un instant, on va accueillir Dr Michel Mouvoudi, membre de l'équipe de Riposte et expert en santé publique. Dr Michel Mouvoudi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi qui nous suivent.
Nous savons qu'au début de la pandémie de coronavirus, beaucoup de gens étaient convaincus jusqu'à présent et étaient un moyen de consommer l'alcool en grande quantité et surtout qu'ils entendent parler des solutions hydroalcooliques, ils se disent que bon, c'est l'alcool, c'est le remède. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets?
Merci beaucoup, Monsieur Jody. Donc, je pense que le professeur l'a très bien expliqué. Hein. Premièrement, il faut aller un peu en amont de la question, c'est de comprendre pourquoi les gens sont dans cette perception. Et deuxièmement, c'est donner la vraie information. Donc, moi, je suis tout à fait, je comprends. Lorsque nous avons une population peu informée, lorsque nous avons un niveau d'éducation globalement très faible, les gens parfois comprennent très mal les choses. Donc, c'est toute cette question d'investir dans l'éducation, dans la sensibilisation et dans la communication. Maintenant, ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que lorsqu'on parle de solutions hydroalcooliques, on ne parle pas de l'ingestion de l'alcool. L'ingestion de l'alcool n'a pas d'effet sur le coronavirus. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, pour les simples raisons que le virus, et le professeur vous l'a bien mentionné aussi, le virus, lorsqu'il pénètre dans l'organisme, il utilise d'abord soit les voies narinaires, ça veut dire le nez, et vous ne mettez jamais de l'alcool dans le nez, donc ça veut dire qu'il peut très vite passer par là et continuer son chemin. Soit alors, s'il entre par la bouche ou par le nez, il peut aller au niveau de ce qu'on appelle le carrefour oropharyngé. En fait, ce carrefour a deux parties. Il y a une partie de la voie qui va vers le tube digestif. C'est là où nous mettons l'eau, l'alcool, les boissons, la nourriture. Et il y a une autre voie qui va vers le système respiratoire, donc vers les poumons. Et là, vous ne pouvez pas y mettre un liquide. Et c'est là justement que le virus reste. Donc vous comprenez qu'à ce titre-là, l'ingestion par voie orale d'une solution alcoolique n'a aucun effet. Ça c'est premièrement qu'il faut savoir. Et deuxièmement, c'est aller au-delà un peu des effets même de l'alcool. Vous le savez bien, monsieur Jody, l'alcool a des effets néfastes. Je crois qu'il faut éviter toute forme d'alcoolisme. D'abord, les effets sur la santé, les effets sur le social et des effets sur l'économie. Sous la santé, l'alcool vous prédispose à des maladies, hein, à des maladies notamment les maladies du foie, les maladies de rein, les maladies du cerveau, et avec des répercussions qui vous amènent sans doute vers la mort. Sur le plan social, le professeur l'a aussi mentionné, c'est tous ces comportements qui sont lié à la violence, parce que quand vous êtes en état d'alcoolisme, vous perdez le contrôle, et donc du coup, on constate même que l'alcool serait à la base des violences au niveau de la communauté. Les violences aujourd'hui basées sur le genre, l'alcool est aussi cité, parce que lorsque vous en abusez, vous perdez le contrôle. Mais aussi sur le plan économique, lorsque vous prenez de l'alcool, ça vous pousse à faire des dépenses. Dans une situation où vous avez une population pauvre qui s'adonne à l'alcool, mais vous brûlez les ressources dont vous pouvez disposer pour pouvoir payer les soins de santé, payer de l'alimentation. Et donc, comprenez que cette idée de croire que l'alcool, d'abord sur le coronavirus, a un effet quand on le prend, ben, c'est tout à fait une conception qu'il faut décourager au niveau
de... Avec la réouverture des bars, on voit les gens se mettre côte à côte en train de prendre la bière. Est-ce qu'on peut dire que les risques de contamination, les risques sont de plus en plus élevés dans les bars et les bistrots?
Mais absolument, parce que nous avons affaire d'abord à des gens qui ne respectent plus la distanciation. Nous avons affaire à des gens qui ne mettent plus le masque. C'est normal, ils sont en train de boire. Ils vont boire comment s'ils mettent le masque. Troisièmement, nous avons affaire à des gens qui diminuent leur immunité, la force de leur organisme suite à l'alcool qu'ils sont en train de prendre. Donc, qui s'affaiblissent. Voilà donc un certain nombre de facteurs qui sont favorables à ce que le Covid-19 puisse régner en maître. Donc, vraiment, c'est vraiment très, 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 très préoccupant.
Bien, c'est vraiment préoccupant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Faut-il, parce qu'on répète aux gens, attention, distanciation sociale, respecter les gestes barrières, mais dans les bars, apparemment, on n'en tient plus compte.
Le docteur Voudy l'a dit, c'est la communication, c'est la sensibilisation. C'est maintenant qu'il faut justement être encore plus fort dans la sensibilisation, parce que c'est maintenant qu'on doit expliquer aux gens que quelqu'un est convaincu, il va prendre les mesures qu'il faut pour que quand il a besoin de boire, qu'il achète la bière et qu'il l'amène chez lui à la maison et qu'il le prenne à la maison. Pourquoi nécessairement aller au bar et prendre des risques alors qu'il y a moyen d'éviter cela? Mais cela peut arriver, ils peuvent le faire suite à la sensibilisation et la communication.
Certains disent que la prise de la bière dans les bars avec des amis en train de papoter, ça permet d'oublier les soucis de la vie et surtout les stress causés par la Covid-19.
Mais oui, bon, je le dis que c'est une des raisons pour lesquelles les gens vont boire. Mais une fois de plus, on ne peut arriver à pouvoir sauver les gens qu'en faisant une bonne communication. Il n'y a rien d'autre à faire. Comment tu vas les arrêter? Non, tu ne peux pas les arrêter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Docteur, vous l'avez dit, il faut nécessairement une bonne communication. Rien à faire, mais une communication, comment on appelle ça? De proximité, voilà. Il faut une sensibilisation de proximité. C'est ça qu'il faut maintenant développer au niveau de la riposte. Je sais qu'ils font déjà beaucoup, mais il faut aller encore plus en profondeur. Parce que ce genre de problème, il n'y a que comme ça qu'on peut le traiter. On ne peut pas espérer que tout le monde comprenne. Mais ce qui est important, c'est de faire comprendre le plus de gens possible.
Docteur Michel Mouvoudi, quel est votre point de vue à ce sujet?
Bon, je pense que le professeur vient d'aborder une question très opérationnelle et importante. Premièrement, moi je crois que il faut que la responsabilité soit bien déterminée entre ceux qui offrent la boisson dans des conditions qui ne réunissent pas les mesures barrières et ceux qui consomment la boisson. Je suis d'accord, il faut renforcer la communication pour le changement de comportement, donc ce qu'on appelle la CCC. Il suffit pas de communiquer, mais il faut que les gens arrivent à changer de comportement. Et à ce titre, comme l'a dit le professeur, encore une fois, il faut continuer à dire aux gens que chacun de nous peut contribuer au risque, mais chacun de nous peut diminuer le risque de manière collective. Et c'est très important. Et je crois que ça, il faut qu'on continue. Deuxièmement, Monsieur Jody, c'est qu'en fait, tous ceux qui détiennent des bars, tous ceux qui détiennent des bistrots et ainsi de suite, ces personnes doivent se plier à la loi. Il a été mis en place par les autorités pays des mesures de prévention à travers les églises, à travers les bars, à travers les bistrots. Ces mesures renforcent notamment ce qui est distanciation physique, ça renforce ce qui est lavage de mains, ça renforce toutes les conditions qu'il faut réunir pour pouvoir accueillir les gens. Je pense qu'il y a une responsabilité à placer sur les détenteurs de ces bars. Pour moi, il faut que l'État joue son rôle. Il faut que l'inspection générale de la santé, les inspections provinciales de la santé jouent leur rôle. On arrive dans un bar, on se rend compte que les conditions de promiscuité sont réunies, on se rend compte qu'il n'y a pas de point de lavage de main, on se rend compte qu'on ne respecte pas de manière globale les mesures barrières. Il faut sanctionner. Vous avez vu ce qui s'est passé en France, vous avez vu ce qui s'est passé en Chine, en Corée du Sud. Il a fallu que la police soit déployée au niveau des avenues pour justement vérifier au cas par cas que les mesures de distanciation, les mesures barrières sont respectées. Il faut le faire aussi ici à Kinshasa, au-delà de la sensibilisation, au-delà de la communication pour les changements de comportement, il faut appliquer la loi, il faut appliquer les règles, il faut utiliser la police de proximité, il faut utiliser les inspections de la santé pour remettre les choses en ordre. Et on n'a pas de choix. Parce que si aujourd'hui nous repartons encore sur des nouvelles vagues, si aujourd'hui nous repartons encore avec une recontamination, les conséquences vont être plus fâcheuses que maintenant. Vous voyez qu'on est déjà en train de faire des efforts énormes pour qu'il y ait une reprise de la vie et que les gens produisent. Mais imaginez-vous, Monsieur Jody, si on doit encore reconfiner cette population qui doit vivre au jour le jour. Imaginez-vous, Monsieur Jody, si on doit encore reconfiner les mouvements des gens appelés à se déplacer pour aller acheter des légumes, pour aller acheter des fruits, ainsi de suite. Voyez-vous quelles sont les répercussions économiques qu'on va encore avoir. Donc, si nous voulons maintenir cette productivité, nous devons tous partager la responsabilité de respecter les mesures qui ont été édictées par les autorités du pays.
Bien. Coronavirus et l'alcool, quels sont les risques? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service avec professeur Ndelodi Pandou Josaphat, toxicologue. Et nous avons également en ligne docteur Michel Mouvoudi, membre de l'équipe de Riposte contre coronavirus et expert en santé publique. Professeur Ndelo, pendant la période de confinement, on a vu, malgré que les bars étaient fermés, les bistrots, mais les gens continuaient à boire en cachette dans les salons ou dans la parcelle, il y avait toujours la bière continuait à couler. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de dépendance qui s'est créée dans la vie de ces gens-là?
Je suis là.
Oui, professeur, je disais tout à l'heure que pendant la période de confinement, malgré que les bars et les bistrots étaient fermés, mais la bière continuait à couler. Les gens prenaient la bière dans des maisons, au niveau du salon, tout ça sans bruit. On peut dire que l'alcool crée une dépendance dans la vie de ces consommateurs.
Mais oui, bien sûr, l'alcool, c'est une drogue. C'est une drogue, malheureusement, elle est licite, parce qu'on ne peut pas faire autrement.
Une drogue sociale.
Pardon ?
Une drogue sociale, en quelque sorte.
Oh, mais non, enfin, les gens veulent dire ça, que c'est une drogue sociale pour justement montrer qu'on n'a pas le choix. En réalité, c'est une drogue, point. Vous avez entendu ce que le docteur Mouvoudi a dit, et c'est tout à fait vrai. Et ça détruit au niveau de l'homme, ça détruit la société, ça détruit, ça va très loin. Mais tout le monde dit que l'alcool, tu vois, c'est social, quand vous arrivez à la maison, ce sont normalement des réactions qu'on devrait corriger. Quand vous arrivez, vous allez visiter quelqu'un, la première chose qu'il vous demande, qu'est-ce que vous prenez? Et quand vous dites que vous voulez prendre de l'eau ou autre chose, il dit, mais comment, vous êtes malade ou quoi? C'est quoi? Vous ne voulez pas? La première fois que vous arrivez chez nous, vous devez prendre l'alcool. Vous voyez? C'est ça qui est grave. C'est ça qui est même très grave. Les gens sont convaincus de ça dans leur tête. Et il y a des gens dans leur famille, effectivement, qui entraînent tout le monde dans l'alcool, même les enfants. Et ça, c'est abominablement grave.
Donc, nous disons que l'alcool expose beaucoup plus le consommateur au Covid-19.
c'est clair, nous l'avons déjà dit, nous le répétons. Ça diminue la force de résistance de l'organisme. Ça pousse quelqu'un à prendre des risques, à enlever son masque, à ne plus respecter les gestes barrières. Et il s'en fout de, il se fout de tout à partir du moment où il a de l'alcool dans la tête. Et il met en danger non seulement lui-même, mais il met en danger les autres. Parce que maintenant, il est en train de faire des choses contre le respect des gestes barrières. Alors, comment voulez-vous que ça puisse aller? C'est vraiment, vraiment, comme on venait de le dire, moi et le docteur Mouvoudi, on doit continuer à faire la sensibilisation, la communication pour essayer de changer les mentalités. Et il faut faire intervenir notamment les méthodes de l'éthique. Parce que sinon, on va continuer à tourner en rond. Mais je vais vous dire que l'alcool, ce n'est pas facile de pouvoir le combattre. Vous savez, aux États-Unis, à un moment donné, on avait fait la prohibition de l'alcool. Mais qu'est-ce que ça a donné? De la contrebande. C'est ça le problème. Et donc, il n'y a que la communication pour le changement des comportements qui peut arriver à faire que ça marche. Personnellement, je ne m'en bats du tout. Je peux faire 6 mois sans même mettre une goutte d'alcool dans la bouche. Pourquoi? Mais parce que je me dis que c'est très dangereux. Il y en a beaucoup d'autres qui ne le font, qui font la même chose. Mais il y en a qui ne se préoccupent pas de ça. Et ce qui est grave, c'est que c'est de plus en plus le jeune cadre qui s'adonne très fortement à l'alcool.
Et on le voit, professeur, après le travail, il se retrouve à Bandal dans l'Inganda et il passe des heures entières, voire jusqu'à 1h, 3h du matin.
Voilà. Et comme Dr Mouvoudi a dit, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Ils vont faire des dépenses énormes, des dépenses économiques injustifiées. Et quand ils rentrent à la maison, la poche est vide. Et à la maison, on attend l'argent n'est plus là. Vous voyez? Et donc, ces jeunes gens, le vendredi surtout, vous allez les voir partout. Et ça fait peur. Vous voyez? Ça fait vraiment peur. Comment faire pour suivre ces jeunes là où ils se retrouvent, dans leurs associations? C'est dans leurs associations qu'il faut aller. C'est dans leurs associations qu'il... Vous savez, mon frère, je suis toxicologue, mais je suis aussi expert en santé publique et en épidémiologie.
Oui.
Beaucoup de gens ne savent pas. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de travaux sur l'alcool. C'est dans les associations qu'il faut aller. Il ne faut pas les attendre, il faut aller vers eux. Il faut définir les associations dans lesquelles il faut aller travailler. Comment il faut travailler? Et il faut identifier les leaders de ces associations pour leur parler. Et c'est à travers cela qu'on peut arriver à faire du travail. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'essaye de faire.
Docteur Michel Mouvoudi, comment les gens ne croient pas déjà, dès le départ, ils ne croient pas à l'existence de la maladie. Donc, même si on va les sensibiliser, ils prennent leur bière, ils s'en foutent des mesures barrières. Alors, je me demande comment procéder dans cette situation-là.
Non, mais Monsieur Jody, je pense qu'on a suffisamment quitté cette étape où les gens pensaient que la Covid était un mensonge, la Covid était une invention, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je crois que plus de la moitié de la population est quand même arrivée à se dire « cette maladie existe ». Vous le voyez. Je crois que le travail que vous avez fait avec la Radio Capi n'a donné des fruits, n'était pas vain. Tout le travail que nous avons fait pour sensibiliser, parler, montrer des évidences, il y a des malades qui ont témoigné, ce travail a donné des fruits. Aujourd'hui, on a quand même eu beaucoup d'évidence dans la population que les gens commencent à comprendre que la maladie existe. Parce qu'on a vu, des familles perdre des êtres chers, on a vu des gens être en coma à cause de cette maladie. Donc du coup, ça c'est déjà un élément sur lequel il faut s'appuyer pour continuer encore une fois de plus à parler avec ceux-là qui pensent encore que bon, la maladie n'existe pas. Je crois que la maladie existe, je l'ai dit, la Covid-19 est une réalité mondiale. Regardez partout ce qui se passe, je crois qu'on est dans une situation qui demande notre prise de conscience. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que le professeur l'a bien expliqué, encore une fois de plus. La question de l'alcool, au-delà même de la Covid-19, c'est d'abord une question de santé publique, avec des répercussions économiques, des répercussions sociales qui peuvent amener l'augmentation de l'appauvrissement de la population. Ok, parce que regardez, comme vous l'avez dit, monsieur Jody, vous avez déjà une population pauvre ici en RDC. Plus de 60% des gens vivent dans l'extrême pauvreté. Ces personnes-là, ça veut dire, n'ont même pas de facilité économique d'accéder aux services de base. L'éducation, la santé, l'alimentation. Alors, lorsque ces personnes s'adonnent à la drogue comme l'alcool, il y a des dépenses catastrophiques qui sont faites. Et donc, du coup, vous renforcez à travers ces genres de mécanismes la pauvreté des gens. Donc les gens, à un moment donné, vont se retrouver dans l'extrême pauvreté à cause tout simplement de ce genre d'habitudes. Je crois qu'il faudra qu'on se réveille et qu'on comprenne que si aujourd'hui nous voulons lutter contre la pauvreté, nous devons aussi regarder des pratiques qui amène les gens à des dépenses irrationnelles, pas des dépenses catastrophiques. Et je pense que quand je vois le nombre des gens qui consomment l'alcool au niveau de la ville province de Kinshasa, je me dis ça devient un problème maintenant de santé publique. Ça, c'est un élément important. Mais de l'autre côté, n'oubliez pas que quand vous êtes parent, vous êtes père, vous êtes mère, vous avez des dépendants. Aujourd'hui, vous mourrez de cirrhose de foie, vous laissez des orphelins, vous laissez une veuve. Aujourd'hui, vous mourrez, je sais pas moi, d'intoxication cérébrale liée à l'alcool, vous laissez des dépendants qui vont être incapables de s'assumer. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous contribuez encore une fois de plus à la pauvreté de la population. Je crois qu'il faudra que les gens voient ça. Et aussi, et ça je le dis et je le répète, une population qui s'adonne à l'alcool sans pouvoir en mesurer les conséquences, sans pouvoir être interpellé sur le niveau, d'abord vous avez les conséquences de santé, comme je l'ai dit, enseigné, c'est tous ces accidents de route que vous regardez. Parfois, regardez très bien, on a aujourd'hui beaucoup d'accidents de route, plus de la moitié c'est lié à l'alcool ou à l'excès de vitesse. D'accord? Et mais de l'autre côté aussi, n'oubliez pas, monsieur Jody, que quand vous avez une population qui est dans ce genre de pratique, mais elle devient peu productive. Oui. Moi, je peux vous dire la vérité que les gens qui produisent, les gens qui sont rentables, c'est des gens qui sont très rationnels dans leur mode de consommation. Et aujourd'hui, je crois que les excès de consommation d'alcool doivent être interdits, y compris dans le cadre de la lutte contre la pandémie, parce que comme le professeur l'a dit, lorsque vous laissez ces genres de regroupements se faire, vous créez des milieux de contamination, et la conséquence, c'est que nous repartons encore avec des chiffres. Lorsque vous laissez ces milieux de consommation d'alcool se mettre en place, la conséquence, c'est quoi? C'est que vous envoyez un mauvais signal aux autres. Vous montrez aux enfants, vous montrez aux jeunes que écoutez, si nous pouvons faire ça, vous pouvez aussi le faire. Et donc, je crois qu'il y a une responsabilité à prendre, même si aujourd'hui on autorise l'ouverture de certains espaces pour prendre une boisson, mais il faudra qu'on attire l'attention de la responsabilité des gens qui détiennent ces endroits-là. Moi, je pense que quand ces préalables-là ne sont pas réunis, lorsqu'on fait le contrôle et le suivi, on se rend compte que les gens qui offrent les boissons ne respectent pas les mesures que nous avons données, il faut fermer ces endroits-là. C'est à cela que sert la police, c'est à cela que sert l'inspection générale de la santé, c'est à cela que sert la loi au finish. C'est pour justement remettre en ordre des personnes qui dévient et qui deviennent un danger public, un danger de santé publique. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade.
Coronavirus et l'alcool, quels sont les risques? Nous allons accueillir Albéric de Boutembo. Albéric, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bienvenue Albéric dans cette émission. Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est celle-ci. La première des choses, l'alcool est tellement dangereux dans notre pays. Et parce que la jeunesse se donne beaucoup à l'alcool, et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de choses qui ne marchent pas à cause de l'utilisation de l'alcool. Et la jeunesse aussi, c'est elle qui est victime de cet alcool. C'est elle qui se prend beaucoup à l'alcool et beaucoup de choses ne marchent pas à cause de l'utilisation de l'alcool. Première des choses pour cette période de coronavirus, nous pouvons faire ceci pour ceux qui vendent cet alcool. Il faut qu'ils utilisent, première des choses, un emballage pour servir leurs clients, parce que s'ils utilisaient un même verre, ils risqueraient de contaminer tous leurs clients et toute la population, tous ceux qui consomment l'alcool seront des victimes.
Alors, quelle est la question que vous adressez aux invités?
J'adresse aux invités du jour de prendre les mesures aider. Bien souvent, aux vendeurs d'utiliser les emballages, mais pas d'utiliser les verres pour bien garder et la distanciation sociale soit toujours gardée dans les endroits où on prend l'alcool.
Bien, merci Alberic Debutembo. Professeur Ndelo Dipanzou.
Oui, je suis là.
Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la préoccupation d'Alberic?
Mais je crois que nous avons déjà abordé ces problèmes-là. Il ajoute en disant qu'il ne faut pas qu'on puisse utiliser les verres, qu'on utilise les emballages. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par là. Mais ce qui importe, je suis totalement d'accord, au contraire avec le docteur Mouvoudi. Je crois qu'il faut être sans pitié. C'est-à-dire, si le responsable d'un débit de boisson ne respecte pas ou ne fait pas respecter les règles qui sont édictées, il faut fermer. Vous avez vu, hein, quand l'État prend une mesure et l'applique, cette mesure est respectée. Et donc, il faut de la force de frappe nécessaire. Il y a des gens qui ne peuvent être, qu'il faut sauver contre eux, malgré eux. Il y a des gens qui n'obéissent que quand il y a la punition. Et quand il n'obéit pas, il y a la loi. Et je suis d'accord, docteur Mouvoudi, c'est formidable. La loi est là pour ça. Et parfois, dans des cas comme ça, il faut mettre des lois pénales qui permettent, lorsque la personne ne veut pas obéir, on dit que quand tu n'obéis pas à tel, eh bien, tu vas aller faire un peu un jour de cachot. Quand tu vas sortir, là, tu vas oublier. Il faut absolument qu'on puisse arrêter cette histoire-là pour faire que l'avantage que nous avons aujourd'hui puisse continuer. Voilà ce que j'ai à dire.
Ouais, peut-être qu'il voulait parler des verres. Les gens prennent l'alcool dans des verres après qu'ils sont mal nettoyés. Et puis, bon, on va servir la bière à quelqu'un d'autre avec les mêmes récipients ou les mêmes verres.
Donc, ils boivent dans les bouteilles.
Voilà, qu'ils boivent dans les bouteilles. Mais ceux qui boivent, okay, par exemple, dans les Ngandalo Toko, là-bas, il n'y a pas
de bouteilles.
Non, c'est des gobelets. Tu prends et puis on nettoie un tout petit peu. Voilà. Et puis, et un autre prend aussi à son tour.
Oui. C'est ça le problème.
Bien, c'est ça le problème. Docteur Mouvoudi, votre réaction?
Non, mais ma réaction rime pratiquement avec celle du professeur. Je pense qu'il y a deux petits points, M. Jody, qu'il faut très vite accentuer dans ce qu'on est en train de dire. Donc, le premier point, c'est déjà que les mesures d'hygiène restent des mesures d'hygiène. Ces mesures nous protègent contre toutes les maladies, y compris la COVID-19. Je pense que prendre des liquides dans un même gobelet, ben, au-delà d'ailleurs de la COVID, mais vous vous exposez aussi à certaines maladies de mains sales, comme on dit, ça peut être la fièvre typhoïde et autres. Donc ça, c'est pour moi clair. Et regardez, tous les pays qui ont fait des avancées en termes de lutte contre la mortalité des maladies infectieuses, c'était principalement en travaillant sur l'hygiène. Pour moi, ça reste un élément clé. Donc, lorsque nous parlons à ce point-là de mesures de distanciation, Monsieur Jody, c'est ce que j'avais mentionné un peu avant. Vous avez un restaurant. Votre restaurant, jadis, accueillait 50 personnes dans des conditions où les gens étaient côte à côte, de manière serrée, dans une promiscuité indescriptible. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus accueillir le même nombre de gens. Donc, on doit veiller à ce que on puisse mettre des tables de façon à faire en sorte que quand vous êtes là-dedans, vous avez de la distanciation. Ça peut être que vous ne pouvez plus dépasser 20 personnes, que vous ne pouvez plus dépasser 15 personnes, ou alors les gens peuvent venir en rotation. Ça peut être des mesures. Vous avez vu ce qui s'est passé en France lorsqu'on a ouvert, par exemple, le restaurant et tout ça. Ben, on a d'abord demandé aux gens d'être à l'air libre et puis après d'espacer les chaises. Donc, du coup, un restaurant qui recevait 20 personnes diminuait à 10, ainsi de suite. Pour moi, ça, c'est important et il faut y veiller, comme on venait de le dire avec le professeur. Mais alors, au-delà de ça, je crois que la boisson, comme je l'ai dit, la boisson même, okay, l'alcool même, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Et donc, du coup, lorsque vous mettez, regardez même sur les emballages des alcools et tout ça, des cigarettes, on vous mentionne très bien que c'est des produits nocifs à la santé. Et comme on l'a dit, la première des choses, c'est que là où vous prenez cet alcool, vous êtes souvent dans des conditions non régulées, non contrôlées, bon, qui font que vous mettez côte à côte, vous utilisez des toilettes parfois qui ne sont pas correctement assainies, et du coup, vous vous exposez d'abord à la contamination, et à force de prendre l'alcool, vous diminuez votre résistance physique, vous diminuez votre résistance immunitaire. La conséquence, c'est que sur ce genre de terrain, lorsque la Covid y arrive, ben, vous développez la forme grave. De quoi que notre ami a raison, il faut continuer à faire ce travail-là. Moi, quand je circule la ville de Kinshasa, en tout cas, je ne suis pas content. Je ne suis pas du tout content en tant que médecin de santé publique lorsque je vois qu'à peine qu'on venait de déconfiner, à peine qu'on venait de lever l'état d'urgence, à peine que le chef de l'État venait de donner des orientations claires, relayées par les médias et tout, les gens continuent encore à rêver ou à croire que la levée de l'état d'urgence, c'est la fin de la pandémie. C'est là où je reviens sur la gouvernance, monsieur Jody. Il faut que la gouvernance soit renforcée, que la police fasse son travail. Regardez, il faut qu'on déploie des policiers sur les avenues, partout là où il y a des petites chaises le long de la route. Dès qu'on voit une déviation, on applique la loi. Si on voit de telles choses se faire, je crois que nous allons protéger notre société qui va justement continuer à produire pour faire face à ce choc économique que nous avons aujourd'hui. Si on ne fait pas ça, ben, attendez-vous au pire. Et le pire va aller au-delà de la Covid-19. Ça pourrait justement être aussi la transmission de certaines maladies liées à l'hygiène, telles que vous l'avez vu dans le passé, notamment le choléra, la fièvre typhoïde, ainsi de suite. Merci beaucoup.
Bien, on va accueillir Gabriel de Kinshasa. Bonjour.
Ouais, bonjour Radio Capi, c'est Gabriel Kombi depuis Kinshasa.
Nous parlons de coronavirus et de l'alcool. Quels sont les risques? Quelle est votre question?
Tout d'abord, je dirais, le sujet a été discuté dans le cadre de réflexion à Kinshasa, à l'occurrence de M. Christian Baka ainsi que M. Théophile Mbolo Kaki. À mon avis, concernant la consommation de l'alcool frelaté en période de Covid-19, les conséquences sont très graves. Et surtout à Kinshasa, dans la capitale, allez-y dans les quartiers populaires, l'alcool frelaté est vraiment très, très consommé, où tu verras beaucoup de gens entourés sur une même table sans toutefois porter le cache-nez et ne respectent pas aussi la distanciation physique.
L'alcool frelaté, vous parlez de l'Otoko Aguenin?
Je parle de l'Otoko Aguenin ainsi que l'autre là, de whisky d'une manière générale.
Oui,
d'une manière générale.
Les pastis, il y a des whisky qui sont vendus en sachet et les jeunes font.
Il y a des whisky, apparemment, je n'arrive pas. Apparemment, c'est comme si une autorité ferme les yeux sur ces méthodes de fabrication. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a la multiplication de l'autoco, des whisky. Je n'arrive pas du tout à comprendre. Et moi, je pense que nos autorités doivent mettre de mesures, de faire en sorte qu'ils puissent éradiquer toutes ces gens-là. Qui vendent les boissons.
Bien, merci Gabriel. Professeur Ndelo, vous avez suivi, les jeunes gens prennent de plus en plus les lotoko à Guéné. Ils font des mélanges, des cocktails terribles, avec du whisky, avec d'autres produits extrêmement dangereux. Qu'est-ce qui explique que les jeunes aujourd'hui descendent jusqu'à ces niveaux-là?
Mais parce que d'abord, il y a un manque de sens de responsabilité de plus en plus criant dans nos sociétés. Et ça, c'est très grave. Deuxièmement, le manque du sens des dangers. Donc, et ces deux choses font que les jeunes qui semblent avoir des problèmes, ou même quand ils n'ont pas des problèmes, ils pensent que pour eux, ils peuvent s'adonner aux drogues en tête l'alcool. Deuxièmement, je suis d'accord avec M. Gabriel, l'autorité, le gouvernement, les gens de dans les communes là, comment on les appelle, les bourgmestres, ils ne jouent pas suffisamment le rôle. D'abord, au-dessus, que le gouvernement puisse regarder. Toutes ces diverses boissons viennent de d'où et elles entrent comment? Est-ce qu'on en a n'est-ce pas besoin? Normalement, la Covid-19 devrait nous donner une nouvelle manière de réfléchir, de raisonner et de vivre. Rien à faire. Cela veut dire qu'il faut examiner chaque point de notre vie ou de notre communauté pour voir comment faire pour que nous puissions gérer les choses autrement. Et pour l'alcool, c'est vraiment important de regarder ce qu'on doit arrêter, ce qu'on doit permettre. Sinon, on va à la catastrophe. Les jeunes ne veulent absolument pas comprendre. C'est pourquoi j'ai dit, il faut les faire comprendre et aller parfois là où ils sont, dans leurs associations, une communication, je répète, de proximité et avec la loi avec nous. Sinon, ça ne marche pas.
Professeur Ndello, quel lien faites-vous entre coronavirus, l'alcool et la criminalité?
Absolument. Tout ça est lié. Là où il y a la drogue, il y a tout. Si nous prenons là où les gens prennent de l'héroïne, eh bien, il y aura tout. Eh bien, l'alcool étant une drogue, la même chose. On va rencontrer les femmes, on va rencontrer la débauche, on va donc rencontrer évidemment Covid-19 et on va encore rencontrer la criminalité. Parce que lorsque les gens vont se rencontrer comme ça, la jalousie va être là et beaucoup de choses vont se faire et la criminalité sera là. Rien à faire. Donc tout est lié. Le vol aussi sera là. Rien à faire.
Bien. Vous voyez ? Oui. On va accueillir Jaurès de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation par rapport à la consommation de l'alcool pendant la période des Covid-19?
Bon, selon moi, j'ai essayé de décortiquer les conséquences de la boisson flattée par rapport au Covid-19. Je l'ai divisé en deux parties, sur le plan sociologique et sur le plan juridique. Sur le plan sociologique, d'abord, nous remarquons beaucoup de gens qui consomment ces genres de boissons, en vivant sur un même gobelet. Prenez l'exemple de celui qui est atteint du coronavirus, vient prendre l'alcool, ou soit la boisson, avec ses gobelets. Et celui qui viendra après, il va commencer à prendre. Ça sera donc la propagation du coronavirus va se propager de cette façon. Sous le plan juridique, nos autorités doivent prendre une certaine mesure contraignante pour essayer d'éradiquer cette façon de prendre les choses. Parce que nous voyons ces derniers temps, les gens ne respectent pas les mesures que les autorités ont prises par rapport au coronavirus, par rapport aussi. Donc il y a aussi la hausse du taux de criminalité parce que celui qui a pris la boisson. Et lorsqu'il va rentrer, il va commencer à faire des bêtises. C'est le cas de Kourouna aujourd'hui.
Oui. Bien, merci. Je m'en vais lire la réaction d'un internaute, Valérie Ngoy, depuis Lubumbashi. Il nous dit ceci, la conception répandue chez la plupart des consommateurs de l'alcool frélaté est que cet alcool ne permet pas la survie du virus ou des microbes, d'où ils se font confiance en partageant même verre. En effet, j'ai essayé de m'entretenir avec quelques jeunes de Lubumbashi qui en consomment. Ils avancent d'ailleurs que l'idée que l'alcool frélaté, communément appelé Kabundo, est un remède contre la Covid-19. Avec une telle perception, il y a de quoi s'inquiéter par rapport à la survie de ces jeunes en cas de contamination. D'où le gouvernement doit mettre tous les moyens nécessaires afin que le contrôle soit régulier et permanent. Il ne suffit pas de faire les communiqués à la radio ni à la télé, mais de faire le terrain pour sauver des vies. Il y a relâchement des mesures barrières à différents niveaux et dans différents secteurs. Et c'est un grand danger. C'est ce que nous dit Valérie Ngoy depuis Lubumbashi. Docteur Michel Mouvoudi.
Valérie, il a totalement raison, je l'ai mentionné, le prof l'a mentionné. Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous voulez réussir une intervention de santé publique, il faut très rapidement aller vers les perceptions. Autant les gens pouvaient avoir une perception selon laquelle la maladie n'existe pas, autant, vous venez de le dire, ce jeudi, il y a des gens qui pensent que l'alcool que nous prenons de manière abusive nous protège contre la Covid-19. Donc ça, c'est des perceptions qu'il faut très vite rencontrer et les modifier par une bonne communication pour le changement de comportement. Donc c'est très clair. Et donc c'est très bien qu'il y ait des équipes qui entendent ça, mais qui ne s'arrêtent pas à entendre, mais qui vont avoir une action proactive, c'est d'aller et de dire, monsieur, ce que vous dites n'est pas vrai, regardez ce que les scientifiques disent, regardez ce que les preuves montrent, vous ne pouvez pas prétendre que en prenant de l'alcool, vous vous protégez contre la Covid-19. Ça, c'est un élément extrêmement important. Un autre élément, Monsieur Jody, c'est en fait il faudra justement mettre un accent sur les gens qui vendent ces alcools là. Je sais qu'autour de ces genres de drogues que moi j'appelle ainsi, il y a toute une série d'économies qui se développent. Ok, moi je vois comment est-ce que ces boissons s'écoulent. Moi, je vois comment est-ce que ces vendeurs d'alcool ou de boissons font des affaires. Je ne vais pas aller dans ce domaine, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a moyen justement de faire aussi la promotion des produits potables, des produits favorables à la santé. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons commercialiser pour pouvoir à la fois contribuer à la santé, mais aussi contribuer à diminuer la propagation de la COVID-19 en termes de pratique. Donc pour moi, le collègue a raison et il faudra continuer justement à lier deux choses, la communication pour le changement de comportement et l'application de la loi en référence justement de toutes ces mesures que nous avons données et qui ont été clairement élucidées à travers les décisions prises par les autorités du pays.
Docteur Michel Mouvoudi, membre de l'équipe des ripostes contre la COVID-19 et expert en santé publique, merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, monsieur Jody.
Bien, professeur Ndelo Dipandou, vous êtes toxicologue. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, si les jeunes se lancent beaucoup plus dans l'alcoolisme, c'est à cause des différentes publicités qui passent dans les médias?
Oui, la publicité aussi joue un très, très, très grand rôle. Et normalement, par exemple, déjà pour le tabagisme, le tabac, c'est interdit de faire la publicité. On devrait faire de même pour l'alcool. Ça n'a aucun sens que le gouvernement puisse laisser passer des publicités qui sont totalement mensongères. C'est incroyable qu'on puisse laisser faire. Je vous assure qu'on doit profiter de la COVID-19 pour que la pré-COVID-19 soit différente. Je vous assure. Parce que sinon, je vous dis, la COVID-19 ne va pas disparaître. À un moment donné, nous allons voir qu'il n'y a pratiquement plus rien. Et puis, en fait, à ce moment-là, elle sera en train d'agir en sourdine, en profondeur. Donc, absolument, il faut arrêter cette publicité-là. Parce que sinon, nous n'allons pas nous en sortir.
Pourquoi ne pas utiliser les mêmes publicitaires là pour passer des messages et dire aux consommateurs que, attention, COVID-19 est là?
Je ne sais pas si c'est ces gens-là qui font la publicité. Eux, ils font la publicité et c'est pour l'argent. Si on leur donne les moyens, je ne pense pas qu'ils vont refuser de faire la publicité. C'est un problème de les approcher, c'est un problème de discuter avec eux et puis de s'entendre avec eux pour qu'ils puissent trouver leur compte. Et je crois que c'est indispensable, mon frère Jody, c'est indispensable.
Professeur, donc on peut retenir que l'alcool n'accorde aucune protection contre la COVID-19, au contraire, elle nous expose.
Absolument. Je crois que tout au long de l'émission, nous avons été suffisamment clairs, tous, et les intervenants, et le... que tous, nous avons la même chose. Et donc, je crois que c'est très important de savoir que de plus en plus, les jeunes, ils sont de plus en plus jeunes à commencer à boire. Et ça, c'est vraiment, nous sommes devant un danger énorme, alors que les gens pensent que l'alcool peut aider contre COVID-19, tout ça c'est totalement faux. On doit leur dire et continuer à le dire. On va dire non, ils savent déjà. Non, ils savent pas. Il faut continuer à dire. Il faut continuer à parler. Il faut continuer à enseigner, à communiquer. Rien à faire.
Bien. Professeur Ndelo Dipandou Josaphat, toxicologue, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de coronavirus et l'alcool. Quels sont les risques? Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, mon cher Jody.
Bien, fidèles auditeurs, nous clôturons cette première partie du magazine de la vie au quotidien au Capi Service consacré à l'alcool et à coronavirus. Quels sont les risques? On se repose un tout petit peu, nous allons suivre les informations et on se...
Radio Okapi,
Okapi. Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Coronavirus et l'alcool, quels sont les risques? Depuis le début de l'épidémie du COVID-19, une rumeur selon laquelle l'alcool était un remède pour combattre les virus, s'était vite propagé. Beaucoup de personnes sont convaincues que les boissons alcoolisées aideraient à guérir de COVID-19. Pour les experts, la consommation excessive d'alcool, déjà peu recommandée en temps normal, peut s'avérer plus dangereuse encore en période de la pandémie. Dans certains quartiers populaires de Kinshasa, par exemple, l'alcool frélaté coule à flot. Les jeunes font des cocktails d'aguené, de l'otoko et des différents whisky dénommés matrapa afin de, d'après eux, ils sont convaincus que ça renforce le système immunitaire et ça nous garde contre la maladie. Alors nous avons en ligne professeur Gauthier Moussengue, sociologue. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Professeur, il a été constaté une hausse de la consommation des boissons alcoolisées pendant la période des confinements parce que les gens pensaient que, bon, l'alcool permet de chasser la maladie. Et quel est votre avis là-dessus?
Bon, à ma connaissance, nous avons des médecins, nous avons des pharmaciens qui étudient les remèdes contre les différentes maladies, mais aucun médecin, aucun pharmacien ne nous a dit que l'alcool guérit contre le coronavirus. En tout cas, ça, moi, je n'ai pas lu, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Au contraire, il y a d'autres recommandations. Par exemple, de l'eau chaude, par exemple, c'est de suite, mais pas, on n'a jamais parlé de l'alcool qui guérit le coronavirus ou qui tue les microbes de coronavirus. Sinon, en Europe, en tout cas, il y aurait moins de cas de décès. Moi, je n'ai jamais appris ça, je ne connais rien sur ça.
Mais d'après vous, quelles sont les raisons qui font que la consommation des boissons alcoolisées a fortement augmenté pendant le confinement?
Monsieur le journaliste, vous devez savoir d'abord que chez nous, depuis un certain temps, on consomme beaucoup de boissons alcoolisées, donc fortement alcoolisées. Comme on appelle ça les ododo. Pour la
Aguené,
plupart qui consomment ça, oui, Dodo, Aguené, ainsi de suite. Mm. Et la majorité qui consomme ça, ce sont les gens ce sont les moins instruits. Et ce qui est regrettable, parce que ces gens-là ne mangent pas bien. Ces gens qui consomment ces alcools-là ne mangent pas bien. Des fois, ils mangent à jeûne. Plutôt, ils consomment ça à jeûne. C'est ce qui est dangereux contre pour la santé.
Et il semble que c'est beaucoup plus des jeunes gens qui prennent aujourd'hui les boissons fortement alcoolisées.
Oui, les jeunes gens, la jeunesse, tout ça c'est lié à la pauvreté parce que les gens ne sont pas informés. Ils montent certaines idées pour expliquer la consommation pour justifier la consommation de cet alcool, alors que ce n'est pas fondé. Ils n'ont jamais étudié ces alcools-là. On ne connaît même pas la teneur, ainsi de suite. Ils consomment comme ça d'une manière désordonnée. Mais ce qui est dangereux, c'est parce qu'ils consomment ça à jeûne. La plupart de ces gens-là, quand vous les voyez, ils sont maigres. Ils sont maigres. Ils sont vraiment maigres. Vous sentez que la santé n'est pas bonne. Et certains meurent facilement comme ça à cause de ces désordres-là dans la consommation d'alcool. Mais ce qui est regrettable, c'est parce qu'à ma connaissance, il y a eu un ministre qui avait interdit les ododos. On avait même interdit la fabrication des ododos. À ma connaissance, ici à Kinshasa, il y avait même un système de contrôle par rapport à ça. Mais à un moment donné, on a abandonné, on ne contrôle plus. Apparemment, on importe ou on fabrique encore ces alcools-là, alors que le gouvernement est là. C'est le gouvernement qui doit travailler sur ça. Dans certains pays, ces histoires-là n'entrent pas. Même les fabricants de ces boissons-là ici à Kinshasa, ils ne les font pas chez eux. Ils ne font pas chez eux. Il y a un laisser-aller, un laisser-faire ici. Il n'y a pas de contrôle, ce qui fait que ces gens-là trouvent mieux de faire ça ici et parce qu'il y a de bons consommateurs par rapport à ça. Donc les gens ne sont pas instruits, les gens ne sont pas informés et les gens sont sacrifiés parce que le gouvernement ne s'en occupe pas. On laisse faire. Tous ces gens-là se sentent trop libres et très à l'aise ici alors qu'ils ne peuvent pas le faire dans leur pays.
ils viennent fabriquer des boissons qui ne sont pas propres à la santé. Et maintenant, c'est une façon de tuer les gens, une façon de tuer la jeunesse. Et vous voyez, avec la crise ici, beaucoup de gens se défoulent par ça, parce que quand ils prennent ça, ils deviennent ivres, ils ne pensent plus à rien, ils ne se soucient plus de rien. Une façon pour lui d'être à l'aise, il préfère prendre ça. Alors que ça nuit à la santé parce qu'il mange mal, il prend un gène et ça détruit les intestins, le foie, ainsi de suite. Ça pose trop de problèmes. Par après, quand il mourra, on dit non, on l'a ensorcelé. On va chercher un sorcier. Alors que c'est lui-même qui est le sorcier. On va pas, non, son papa avait dit ceci avant de mourir, ou bien il a envoyé ici, il avait refusé, voilà, c'est lui qui l'a ensorcelé. Alors que c'est lui-même qui s'est fait ensorceler, c'est lui-même qui s'est fait tuer en consommant des boissons très très fortes comme ça, et puis sans manger.
Voilà.
C'est très dangereux. Donc, en principe, c'est le gouvernement. Le gouvernement doit contrôler l'application de ces décisions. On avait interdit la fabrication de ces alcools-là dans notre pays. On doit contrôler et sanctionner. C'est ça. Parce que les gens meurent facilement. Donc, ce n'est pas bon.
Bien. Et de plus en plus, les jeunes gens font des mélanges, des cocktails d'aguené mélangés avec du whisky. Le whisky vendu dans des petits sachets, les pastis et le reste là. Mais c'est au quotidien, c'est au-dessus de tout le monde que ces jeunes gens consomment ces boissons fortement alcoolisées.
Oui, ces boissons sont vendues en plein air. Tout le monde voit. Les policiers voient ça. Tout le monde voit ça. C'est vendu en plein air. Tout le monde voit. Les officiels voient ça. Et c'est fabriqué aussi ici, à Kingaboua. C'est fabriqué à Kingaboua. Tout le monde sait d'où viennent ces boissons-là. Et le ministre de la Santé sait que ces boissons-là ne sont pas propres à la consommation. Mais le gouvernement laisse faire. Les policiers laissent faire. On devait contrôler ça. Contrôler et sanctionner. Vous verrez que si on contrôle et qu'on sanctionne, il ne faut pas seulement contrôler le lieu de vente. Il faut aller au niveau de la fabrication et interdire même l'importation si ça venait de l'importation. On doit interdire, on doit bien contrôler ça. C'est parce qu'on ne contrôle rien. On laisse faire. Et maintenant, ça a une répercussion vraiment très, très dangereuse au niveau de la population. Les jeunes gens ne sont pas informés. Alors, ils cherchent des explications pour justifier ça. Donc tout ce qu'ils montrent là, ce sont des scénarios pour dire non, voilà, ça tue contre le coronavirus. Qui a dit ça? Quel est le médecin? Quel est le chercheur qui a dit ça? Sinon, on devait donner des boissons fortement alcoolisées, surtout au niveau de l'Europe, où la prévalence est très très élevée de coronavirus. Et il y a beaucoup de cas de décès là-bas. Les gens prendraient ça. Mais on n'a jamais conseillé aux gens de prendre ça. Les médecins n'en parlent pas, les chercheurs n'en parlent pas. Donc, ce n'est pas ces consommateurs-là qui doivent nous dire non. Ils n'ont même pas une longue vie. Regardez même leur apparence, l'apparence de leur corps.
Oui.
Ils sont chétifs.
Ils sont pas en bonne santé. Ils sont pas en bonne santé.
Oui, ils sont chétifs. Apparemment, ils sont vraiment faméliques, chétifs. Ils mangent très mal. On ne peut pas consommer ces histoires-là quand on n'a pas mangé, parce que ça brûle. Mais nous, on voit certains cas de jeunes gens qui vomissent du sang. Donc après avoir consommé ça, ils vomissent du sang et ils crèvent directement, ils partent, ils meurent.
Et il y a d'autres qui entrent en coma pendant plusieurs jours.
Oui, oui. Mais l'État voit ça, l'État fait ça. Le gouverneur voit ça, le gouverneur fait ça. La police voit ça. Il y a déjà une mesure prise, à ma connaissance. On a interdit ça. Et on doit maintenant contrôler si ça continue, si la fabrication, surtout au niveau de la fabrication et importation. On doit interdire ça. Sanctionner sévèrement ceux qui les fabriquent ou ceux qui les importent de telles boissons. On doit les sanctionner sévèrement. Mais il y a un laisser-aller, un laisser-faire.
Voilà.
La population est sacrifiée.
Donc on peut dire que les consommateurs de ces lotoco sont très très exposés à la maladie.
Très exposés, mais d'abord par apparence, quand vous les voyez,
Est-ce qu'il peut faire un travail sérieux? Non. Il ne peut même pas réfléchir. Il ne peut même pas faire un travail. Parce qu'il n'est plus dans son état normal. Et ils sont vraiment faméliques. Hein? Ils sont vraiment faméliques. Très malingres. Très malingres. Ils ne peuvent pas travailler.
Ils ne peuvent pas donc, travailler.
Ça, ça, parce que ça nuit à la santé. Il ne peut pas avoir un corps parce qu'il nuit à sa santé. Ça crée des maladies sérieuses. Sérieuses plutôt.
Bien.
Et il meurt facilement. Il meurt. Ils le savent bien. Nombreux vomissent du sang. Il vaut mieux que ça, ils meurent. Ils le savent bien.
Mais professeur, apparemment...
Parce qu'ils prennent ça à gêne.
Apparemment, ils sont dans un état d'inconscience et ils s'en foutent de tout ce qui peut arriver.
Bon, c'est la crise. C'est une façon de se consoler de la crise. Beaucoup de ces gens-là ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'argent. Et surtout que c'est moins cher. 100 francs, ils ont ça. 100 francs, 500 francs, 1000 francs. Ils ont ça et puis ils s'enivrent facilement avec 1000 francs. Ou avec 500 francs seulement, ils s'enivrent facilement. Surtout qu'ils prennent ça à gêne. Alors, pendant à l'état d'ivresse là, ils se défoulent bien. Vous les voyez derrière sourire. Il fait que des sourires parce qu'il est ivre. Donc, alors, c'est une façon pour lui de se consoler de la crise, de la souffrance.
Une façon d'échapper, oui. De fuir la crise, la souffrance.
Oui, et des responsabilités aussi. Une façon de fuir surtout les responsabilités. Parce qu'il y a même des papas qui prennent ça. À la maison, il n'a rien donné. Les enfants restent affamés. Et la femme, n'en parlons pas. Et lui, il a trouvé 1000 francs. Il a demandé, on lui a donné 1000 francs. Il va prendre ça et c'est tout. Il se console de ça, il est bien distrait de ça. Et c'est une fuite de responsabilité. Et les enfants meurent de faim, les enfants. Bon, papa a fini naïe, kuna alali naïe.
Bien, on va accueillir deux auditeurs, Richard de Kananga et Valérie de Kisangani. Richard, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour, je remercie tout le monde qui est au plateau.
Quelle est la question, votre question par rapport à la consommation de l'alcool?
Oui, moi je voulais juste dire qu'il faut que le gouvernement s'engage à inculquer de bonnes manières aux vendeurs de l'alcool. Car ici à Kananga, nous assistons à un phénomène de chichampa. C'est un facteur qui risque de transmettre rapidement la COVID-19. Prions que cela n'arrive pas ici. Les gens entourent la même table sans masque, sans cache-nez, sans lavage de mains. Donc, aucune mesure de prévention. Et les mineurs ou les majeurs s'entourent autour d'une même table et consomment l'alcool. Donc là, il faut que le gouvernement provincial s'engage pour inculquer de bonnes manières aux vendeurs, afin qu'il y ait la distanciation physique et sociale, qu'il y ait aussi des mesures de prévention de cette maladie.
Là-bas, Kananga, ils prennent seulement les chichampas ou bien ils font aussi des mélanges extraordinaires?
Ici, il y a des chichampas, il y a aussi des produits naturels qu'on a déjà à l'intérieur des chichampas.
Pour renforcer les effets?
Oui, pour renforcer les effets, et surtout, ils disent qu'il faut mieux consommer pour avoir un peu de la force, que je peux dire, sexuelle. Donc, il y a des produits naturels qu'on met dedans pour que les gens prennent, pour qu'ils deviennent un peu forts au lit. C'est ça.
D'accord. Pour la performance sexuelle. Merci d'avoir appelé Richard de Kananga. Valérie, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour, bonjour la radio Capi, je corrige, je suis à Lubumbashi.
Êtes plutôt à Lubumbashi, allez-y.
Voilà, je disais, la conception répandue chez la plupart des consommateurs de l'alcool frélaté est que cet alcool ne permet pas la survie de virus ou de microbes. D'où, dans la plupart des cas, vous trouverez que ces consommateurs de cet alcool, ils se font confiance en partageant le même verre, alors avec tous les risques qui se présentent. Moi, je trouve, au départ, d'abord, la consommation en soi n'est pas mauvaise. Du fait que, dès qu'elle est régulée, elle n'est pas mauvaise, mais elle devient mauvaise si les conditions dans lesquelles elle est prise et que le respect de la dose n'est pas respecté. En fait, j'ai essayé de m'entretenir avec quelques jeunes de Lubumbashi qui consomment ce genre d'alcool. Ils avancent d'ailleurs cette idée qui est assez fluide. Pour eux, l'alcool frélaté, communément appelé ici au Katanga le Kabondo, est un remède pour lutter contre la Covid. vous trouvez que c'est déjà quelque chose, une idée avec une telle perception, donc il y a de quoi se demander sur la survie de ces jeunes en cas de contamination d'un membre de la bande ou de leur groupe. D'où, ici, la responsabilité revient au gouvernement qui doit mettre sur pied toutes les batteries afin que le contrôle soit régulier dans le coin où
le Kabondo est servi.
Oui. Alors, il ne suffit pas de faire communiquer à la radio, il y a des mesures, barrières, etc.
Mais il faut des descentes sur terrain.
De près serait nécessaire afin d'éviter contre la contamination sur cette population qui est en général sans constituer des jeunes non instruits ou insuffisamment instruits. La plupart de ceux qui consomment, bien sûr, cet alcool, ce sont les jeunes qui sont soit non instruits, soit insuffisamment instruits, soit les jeunes désœuvrés, soit les jeunes de la rue, etc. Mais dans la population en général, je trouve que une surveillance à tous les niveaux est nécessaire pour lutter contre la propagation de ces virus dans ces cadres. Voilà.
D'accord. Merci, Valérie de Lubumbashi. Professeur Gauthier Moussenge, vous avez la parole.
Oui, j'ai déjà été à Kananga, je sais comment on consomme les chichampes.
Les chichampes.
je déconseille aux gens, j'ai vu comment les gens consomment les chichampes. Je ne suis pas d'accord avec cette consommation de chichampes, parce que ces chichampes-là, on n'a pas étudié pour savoir, pour distinguer le degré d'alcool. Le degré, le niveau d'alcool que le corps peut supporter. Donc, c'est une fabrication qui est artisanale. On ne connaît pas la dose. Les gens consomment comme ça. Surtout que ça coûte moins cher. Parce que ce qui amène les gens surtout à consommer, c'est parce que ça coûte moins cher et on s'enivre vite, facilement.
On s'enivre à moins cher.
Oui, on s'enivre à moins cher. Alors que la bière, par exemple, qui est donc le degré d'alcool est bien connu, tout ça, on peut bien comprendre même à quel niveau on peut bien supporter l'alcool. Mais bon, la bière coûte cher, c'est ça le problème. Et les petits champas, tout ça, ça ne coûte pas vraiment grand chose. Alors, c'est ce qui fait que les gens consomment ça, préfèrent consommer ça, vite s'enivrer, et puis se sentir heureux parce qu'on est à l'état d'ivresse. Ce sont toujours des gens qui sont irresponsables, qui font une façon de fuir sa responsabilité. Donc, ce n'est pas bien, nous, de conseiller aux gens de consommer de telles boissons, parce que c'est toxique à la santé. C'est vraiment toxique. Le degré de toxicité, d'ailleurs, on ne connaît même pas. Pour preuve, vous ne verrez pas quelqu'un qui consomme ça, surtout les grands consommateurs de ces alcools-là. Vous ne le verrez pas à une bonne santé apparente, non.
Professeur Gauthier, non. Richard dit que c'est les consommateurs de ces boissons sont convaincus que cela augmente la performance sexuelle.
Bon, j'ai entendu le compatriote là, il a dit qu'ils ajoutent. Ils ajoutent
certains produits,
les excitants, ouais. Tout ça, les fortifiants, pour avoir des performances sexuelles. Bon, mais ce n'est pas approuvé, hein. Sinon les gens le feraient. Les pharmaciens, les médecins ne nous ont jamais dit ça. Sinon, bon, nous savons qu'il y a des racines. Il y a des racines qui sont des excitants, comme ça. Ce sont des fortifiants, il y en a, naturels. L'état naturel. On n'est pas obligé de mettre ça dans les chichampas pour avoir des effets au corps. Non. Vous pouvez consommer ça comme ça. Comme c'est naturel, souvent, ce n'est pas mal parce que c'est à l'état naturel. Mais des mélanges là, ce sont des mélanges qui ne sont pas contrôlés. C'est dangereux parce qu'on ne connaît pas. Ce sont les gens qui imaginent comme ça un mélange en désordre. On ne sait pas ce que ça peut produire dans le corps. Alors, nous déconseillons vraiment les gens de consommer des choses comme ça, qui ne sont pas contrôlées, qui ne sont pas vérifiées. Et puis, les gens doivent éviter d'inventer, de chercher toujours à justifier ça. spontanément comme ça pour se consoler, pour non, ce n'est pas bon. Ils amènent facilement, ils attirent les autres d'en consommer. Non, ce n'est pas bon.
Professeur Valérie de Lubumbashi nous dit que la consommation de ces boissons frélatées n'est pas du tout mauvaise, mais c'est plutôt l'excès qui n'est pas bon.
Non, la consommation est mauvaise parce que on n'a pas étudié ça. Les chercheurs ne savent pas. Enfin, on n'a pas étudié ça. On ne sait pas à quel. Est-ce qu'il y a une toxicité? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que à quel niveau ça peut devenir toxique? Tout ça, ce n'est pas calculé, ce n'est pas étudié, ce n'est pas justifié. Alors c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. D'autres boissons, c'est bien indiqué, c'est autant d'alcool, autant l'eau, autant de sel, les pourcentages sont bien indiqués, et enfin, vous avez ceci, cela. Donc, et puis, ça doit être contrôlé. Même l'OCC ne contrôle pas ça. Ça échappe l'OCC. Ça pose des problèmes. Donc, on ne peut pas consommer ce qui n'est pas contrôlé. On doit contrôler tout ce que nous devons mettre dans notre bouche doit être contrôlé. L'OCC ne contrôle pas ça. Ce n'est pas dangereux. Alors que l'OCC ne contrôle pas ça. On ne peut pas, par de simples déclarations comme ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas dangereux. Non. C'est dangereux parce que ce n'est pas contrôlé. Nous ne connaissons rien de ça.
Voilà. Et généralement, dans quelles conditions ces gens prennent ces liqueurs fortes dans l'Enganda? Il semble que ce sont des endroits qui ne sont pas très propres et les gens sont autour de la table, ils parlent à haute voix, ils se partagent les gobelets ou les verres sans respect de l'hygiène.
Oui, à ce moment-là, c'est la faute du gouvernement. Le gouvernement doit contrôler, surtout à ce moment de coronavirus. J'ai entendu mon compatriote de Kananga l'a dit d'ailleurs. Il a dit que les gens sont côte à côte, les gens sont serrés, sans masque, font des bruits, ainsi de suite. C'est dangereux, ce n'est pas bon. L'État doit contrôler. La police est là pour ça. La police doit passer dans des buvettes, là, dans toutes les différentes buvettes. On doit contrôler et on doit donner des instructions. Tous les services, il y a des services de l'État qui sont pour ça. Si les services d'hygiène, si ça existe encore. Ces gens-là, on doit instruire aux gestionnaires des buvettes de veiller à ce que leurs clients soient sécurisés. Donc, les gestionnaires professeur, des buvettes doivent sécuriser oui. leurs clients.
Professeur
Ils doivent
Gauthier.
Contrôler.
Professeur Gauthier, après la levée de l'état d'urgence, vous êtes sociologue, sûrement vous avez remarqué ce qui se passe dans les bars. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les gens prennent la boisson tout en respectant les gestes barrières?
En tout cas, je doute fort. Je doute fort. Vous savez, monsieur le journaliste, ce qui régule notre comportement, c'est le contrôle et la sanction. Si je sais bien que si je fais ceci, cela, même si c'est interdit, si je fais ça, personne ne me verra, plutôt, on ne me fera rien. Il faut être Jésus pour bien respecter ça. Donc, c'est le contrôle. Mais quand on sait bien que si je fais ça, on va m'arrêter et on va me sanctionner, vous verrez que les gens ne vont plus faire ça. Alors, il faut qu'il y ait un contrôle et sanction. On doit contrôler et sanctionner. Vous verrez que il n'y aura plus de désordre. Les gens vont bien se contrôler. Les gestionnaires des buvettes et des bars, ainsi de suite, vont bien gérer les clients. On doit contrôler tout ça.
Voilà. S'il n'y a pas de contrôle, les gens, ils vont faire ce qui leur semble bon.
Oui. Il faut qu'il y ait contrôle et sanction. Contrôle et sanction. Et tout ça, c'est bien prévu par la loi. On ne doit pas inventer la sanction. La sanction est prévue par la loi. Mais quand vous sanctionnez en désordre, à ce moment-là, ça énerve. Donc, on doit appliquer la loi telle qu'elle prévoit.
Voilà, il faut appliquer la loi telle que par rapport à ce qui est prévu. Bien. Alors, comme ces jeunes gens sont déjà habitués, leur corps est habitué à prendre des fortes liqueurs, ça crée déjà une dépendance. Maintenant, ils peuvent plus s'en passer. On peut dire que malgré tout ce qu'on peut leur dire, sensibilisation à gauche, à droite, ils vont toujours faire la sourde oreille.
Non, on doit les discipliner. Il y a des services pour ça. On doit les discipliner. La police est là pour ça, pour la discipline. Donc, le gouvernement doit gérer sa population. Le gouvernement doit gérer sa population. Et il a des services établis pour ça. Ces services doivent contrôler les gens. Comment les gens mangent, comment les gens boivent, qu'est-ce qu'ils boivent, ainsi de suite. Il y a des services. Il y a l'OCC qui doit nous dire est-ce que toutes ces boissons-là, est-ce qu'on doit les prendre ou pas. Mais l'OCC émiette, ne dit rien. Laisse faire aussi. Donc, l'OCC ne nous a pas dit qu'il faut consommer ça, il faut prendre ça. Non, on ne peut pas les prendre comme ça. Et ça, c'est les services de l'État. Donc c'est ça, il y a des services d'hygiène qui doivent contrôler, parce que j'ai entendu un compatriote qui a parlé des niveaux de salubrité dans des buvettes. Il a dit que ce sont des milieux insalubres. Et tout ça compte dans notre santé. Mais, monsieur le journaliste, voyez l'état de santé, l'état apparent de ces gens, de ces grands consommateurs des ododo.
Oui.
Voyez comment est-ce qu'ils apparaissent. Est-ce que ces gens-là peuvent faire vraiment un travail physique? Non.
Et leur système immunitaire est très affaibli.
Est-ce qu'ils vivent d'abord longtemps? Est-ce qu'ils vivent longtemps? Ils ont quelle espérance de vie? Ils ne vivent pas longtemps. Nombreux, meurent vite et on les perd comme ça. Alors que c'est une personne, c'est un capital, c'est une ressource pour nous, mais on la perd facilement parce qu'il y a un laisser-aller, il y a un laisser-faire.
Bien. Un internaute nous a écrit, Charles, il nous dit ceci, je connais un papa qui prend les produits pharmaceutiques. Pour prendre les produits pharmaceutiques, il utilise l'alcool comme de l'eau. Un tel papa, si tu lui interdis de prendre la boisson, est-ce qu'il va t'écouter? C'est la question que se pose Charles.
On doit discipliner ce papa-là. On doit les discipliner. Les produits pharmaceutiques doivent se dissoudre dans le corps. Donc, par exemple, les comprimés, c'est avec l'eau que ces comprimés se dissout. C'est avec l'eau. Mais ce n'est pas avec l'alcool. Non. Ça doit se dissoudre avec l'eau. Vous avalez l'eau. L'eau vous permet d'avaler ces produits et de bien les dissoudre dans l'estomac. Ce n'est pas avec l'alcool. Donc, ce sont des solutions graves. Ces gens-là ne vivent pas longtemps, pour preuve. Ils ne vivent pas longtemps. C'est rare de trouver quelqu'un de plus de 50 ans qui fait ça. Non. On doit les discipliner, monsieur le journaliste.
Bien. Moulamba Wanzambi Marcel nous a écrit depuis Kananga. Il dit, à mon humble avis, l'alcool frelaté en cette période de Covid-19 n'est pas du tout mauvais, mais les procédures de vente et de consommation sont des vrais vecteurs de la Covid, car les vendeurs et les consommateurs n'observent pas toutes les mesures barrières. Plusieurs tabagies manquent des kits de lavage de mains et quand les consommateurs viennent, ils ne portent pas des masques et surtout un seul verre peut être utilisé par plus de 50 personnes sans être lavé. Comme proposition, que le gouvernement impose les verres à usage unique dans chaque endroit où l'on vend ces genres de choses et que les vendeurs observent toutes les mesures barrières. Professeur Gauthier.
On doit éviter la consommation de cet alcool-là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que la consommation n'est pas mauvaise. Cette consommation est mauvaise parce que on ne connaît pas les degrés, les degrés d'alcool, même comment ça, comment ça, ça agit dans le corps, mais nous voyons, nous observons seulement, on voit que ces gens-là, surtout qu'ils consomment ça à jeun, ils vomissent facilement le sang et meurent facilement. Et souvent, ils ne vivent pas longtemps. Donc, non seulement on doit interdire la consommation de cette boisson, si on la permet, il faut que l'OCC contrôle ces boissons-là, que l'OCC contrôle, nous dise est-ce que nous devons consommer ça ou pas. Et à partir de là, on prend des mesures, comment faire. L'OCC doit contrôler ça. L'OCC ne doit pas seulement chercher, contrôler ce qui vient de l'extérieur, même la production interne. Bon, on voit même l'OCC dans certaines sociétés qui fabriquent des produits alimentaires. Quand vous allez dans des brasseries, il y a l'OCC là-bas. Mais si l'OCC peut s'organiser aussi, moi je ne connais pas la loi qui régit l'OCC, mais si l'OCC peut aussi contrôler des productions, la production artisanale, ça serait bon. Parce que au niveau artisanal, on peut produire n'importe quoi, peut-être des histoires qui sont toxiques, et les gens vont mourir. L'OCC doit contrôler ça aussi.
Eh bien, l'OCC doit contrôler ça aussi. Nous avons un auditeur en ligne, Cédric, il s'agit de Cédric depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, cher journaliste.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la consommation des boissons fortement alcoolisées en cette période de COVID-19?
Oui, pendant cette période de la pandémie, donc il faudrait premièrement que l'État puisse prendre ses responsabilités. Parce que quand nous regardons dans de grands marchés, nous voyons que l'État est loin de prendre ses responsabilités. Ce sont des ventes illicites. Il faudrait que l'État mette toute potentialité possible pour que les gens puissent se conformer. Ce n'est pas le cas que nous constatons. Donc, les conséquences sont très énormes. Nous voyons, il y a des gens qui ne tiennent pas compte que la pandémie existe. Donc, ils se prennent, ils font tout ce qu'ils veulent, puisque c'est la liberté. Donc, il faudrait que l'État puisse prendre ses responsabilités, vraiment.
Voilà. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe là-bas à Lubumbashi? Est-ce que les gens consomment, prennent beaucoup la bière sans respect des mesures barrières?
Certainement, il y a beaucoup de... Donc, dans plusieurs quartiers, même si vous regardez au niveau du marché, marché Moïse, là, vous verrez, il y a des ventes, des ventes illicites, il y a des alcools, vraiment. Ça ne reflète pas que l'État, en réalité, il existe.
Bien, merci Cédric depuis Lubumbashi. Professeur Gauthier.
Oui, j'ai entendu mon compatriote de Lubumbashi. Je suis d'accord avec lui. L'État doit travailler. L'État doit exister. L'État a des services connus. Ces services doivent fonctionner. Les services d'hygiène doivent fonctionner. Ces services existent. Nous connaissons des agents qui travaillent au service d'hygiène. Ces services-là doivent travailler. Doivent exister. Ils doivent passer dans des buvettes. Ils doivent contrôler, comme je l'avais dit avant. Ils doivent passer dans des bars. Voir les degrés de salubrité, les installations hygiéniques, est-ce que c'est salubre? Ils doivent contrôler ça parce que ça compte dans notre santé. Nous dépendons de ça. Hein? Parce que ce sont des milieux qui produisent des microbes facilement. Même si vous ne fréquentez pas là-bas, mais il y a des microbes qui se reproduisent et qui s'envolent dans le vent et nous absorbons ça et ça nous crée des maladies. Donc, les services d'hygiène doivent fonctionner. Le ministère de Santé, le service d'hygiène est dans le ministère de Santé. Le ministère de Santé doit travailler. Le ministère de l'Intérieur doit travailler pour sécuriser les gens, contrôler et sanctionner. Vous avez la police. Ils doivent contrôler et sanctionner. L'OCC doit travailler, si l'État ne leur a pas donné cette responsabilité de contrôler la production artisanale, en tout cas, que l'État crée ces services-là qui doit contrôler la production artisanale, soit on leur donne ce pouvoir-là aussi de contrôler la production artisanale. Vraiment, nous insistons sur ça. Donc, tout ce que nous mettons dans notre bouche doit être contrôler. Sinon, c'est la mort.
Bien, sinon c'est la mort qui s'ensuit. Merci professeur Gauthier Moussengue. Je rappelle que vous êtes sociologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Au revoir, monsieur le journaliste.
Radio Okapi.
Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi.
Nous allons aborder un autre thème à présent. Il s'agit de la création d'un centre d'isolement des cas non sévères de COVID-19 à Kinshasa. Eh bien, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a aménagé au mois de juillet dernier à Kinshasa un centre d'isolement des cas non sévères de coronavirus. Ce centre peut accueillir 300 malades, mais dispose dans un premier temps des 100 lits. C'est le fruit d'un partenariat entre l'OIM et le ministère de la Santé, avec l'appui financier de l'Allemagne et du Canada. Comment fonctionne concrètement ce centre? Nous avons en ligne Dr Jérôme Mumbere, responsable du volet santé à l'OIM. Dr Jérôme Mumbere, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Bienvenue dans cette émission au Capi Service.
Merci à vous.
Alors,
merci de m'avoir invité.
La première question est de savoir qu'est-ce qui a motivé la mise en place de ce centre d'isolement des cas non sévères de COVID-19.
Alors, merci pour l'invitation. Ce qui a motivé la mise en place de ce centre, c'était le constat qui a été fait face à la difficulté par rapport à la prise en charge des personnes diagnostiquées positives de COVID-19. Mais qui n'avaient pas de symptômes et qui étaient éligibles à tout simplement être isolés et passer un moment de quarantaine et au bout de la période habituellement des 2 semaines, ils pouvaient facilement revenir à leurs occupations habituelles. Mais il s'est fait que, compte tenu de nos conditions socio-économiques, la plupart des personnes n'avaient pas cette possibilité de s'isoler, par exemple à leur domicile, et continuer en même temps à bénéficier des avis de personnel de santé. Et c'est ce qui avait motivé l'OIM de chercher les moyens pour pouvoir mettre en place ces centres en partenariat avec le gouvernement, le ministère de la Santé et particulièrement le comité multisectoriel. En fait, c'était sur un besoin manifesté par le ministère de la Santé à travers le comité multisectoriel de lutte contre le COVID-19 que l'OIM a mis en place ce fonds.
Bien. Depuis que ce site a été aménagé au mois de juillet dernier, comment ça se passe? Comment ça fonctionne concrètement?
Oui. Alors, nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie COVID-19 à travers la sous-commission prise en charge. Et il y a un système de référencement de sorte que les zones de santé, vous savez, notre système de santé est divisé en zones de santé et il y a d'autres structures. Alors, au niveau des zones de santé, lorsqu'ils ont reçu les résultats positifs de COVID-19, ils ont nos coordonnées, ils nous contactent et nous transfèrent les personnes. Mais évidemment, avant de nous transférer ces patients, il y a des critères d'admission, puisque, comme je le disais au début, ces centres visent plus particulièrement les personnes vulnérables, les personnes qui n'ont pas la possibilité de s'isoler chez eux et en même temps continuer à mener une vie normale. Alors, c'est ça le système, mais aussi nous avons un numéro que à la fin de notre discussion, je pourrais vous partager.
Oui.
Les personnes qui n'ont peut-être pas les coordonnées ou peut-être vu que les zones de santé sont parfois débordées, qui n'ont pas été rappelées par les zones de santé, mais qui sont au courant de leurs résultats, peuvent toujours nous contacter et nous pouvons leur faciliter les contacts avec les zones de santé pour que la procédure de référencement suive son cours et qu'ils puissent bénéficier des services du centre.
Alors, quels sont les services offerts dans ce centre d'isolement?
Oui. Alors, tout d'abord, c'est l'isolement. L'isolement, c'est-à-dire la mise à l'écart de la personne de manière à éviter tout contact afin de couper la chaîne de transmission, donc l'hébergement. comme vous le disiez, nous avons commencé pour l'instant avec une capacité de 100 lits. Alors, nous hébergeons les personnes, nous leur facilitons...
Docteur Gérant, on peut dire que c'est beaucoup plus pour les gens qui n'ont pas d'espace pour s'isoler chez eux à la maison. Ils peuvent venir là-bas.
Exactement. C'est plus ça. Mais aussi, c'est plus pour les gens qui n'ont, disons, les plus vulnérables. Parce qu'il y a certaines personnes, peut-être, qui n'ont pas d'espace, mais qui sont peut-être capables d'aller dans un hôtel ou d'aller s'éloigner de la ville et tout ça. Mais nous voudrions plus pour que ces centres puissent vraiment atteindre les premiers bénéficiaires visés, qui sont les personnes les plus vulnérables, par exemple les personnes sans emploi, qui vivent au jour le jour. Lorsque vous lui demandez de rester à la maison s'isoler, ben, ça l'affecte, il peut même mourir de faim au lieu de mourir de la maladie. Alors, c'est ça un peu notre première cible, mais évidemment, on peut... compte tenu de certains critères, certains aspects, accueillir d'autres personnes aussi. Donc, c'est plus ces gens-là qui sont visés. Et comme je le disais tantôt, on leur offre l'hébergement, l'alimentation, les repas. Il y a 3 repas prévus par jour. Et en même temps, il y a un personnel qualifié qui a été affecté par la commission prise en charge du comité de lutte contre COVID-19. Il y a des nutritionnistes, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des psychologues cliniciens. Donc, tout ça, c'est pour permettre à ce que la personne isolée puisse bénéficier aussi d'un suivi médical approprié, de sorte que s'il y a un problème quelconque, on puisse intervenir à temps et au besoin transférer dans une autre structure de prise en charge et plus appropriée.
Alors, si vous recevez des patients, hommes et femmes, vous les mettez tous au même endroit ou bien il y a une certaine organisation par rapport à cela?
Non. En fait, nous avons plusieurs dortoirs. Il y a des dortoirs hommes, il y a des dortoirs femmes. Donc, on s'assure à ce que les hommes soient de leur côté et les femmes de leur côté. Et tout ça est fait de sorte qu'on puisse respecter l'intimité de chaque personne on leur remet des kits à leur arrivée pour leur hygiène personnelle et les suivis est journalier en fait. On attire aussi la lessive régulièrement et tout ça. Donc on s'assure assez que les hommes ont leur côté et les femmes ont leur côté.
Voilà, lorsque les gens sont isolés, ils peuvent se fatiguer, ils sont à un même endroit pendant plusieurs jours, ça peut les fatiguer. Est-ce qu'il y a eu des dispositifs pour leur permettre de se divertir ou de se détendre dans ces centres d'isolement?
Oui, absolument. Pour l'instant, on a commencé d'abord avec la télé. Donc, ils ont des abonnements au câble pour leur permettre de suivre soit des cinéma, soit le football, le sport, ça c'est assuré. Et à la longue, ça dépend si les centres continuent à recevoir plus de cas. On pourrait voir dans quelle mesure ajouter peut-être des espaces de jeu, si jamais on devait recevoir des enfants aussi, et aussi pourquoi pas donner une connexion Internet aux gens. Mais bon, dans un premier temps, on a d'abord pensé à donner la possibilité de regarder la télé, mais aussi si vous arrivez, vous visitez les lieux, vous verrez que c'est un grand espace, il y a un grand air frais, parce qu'on est pratiquement au bord du fleuve, de sorte qu'ils peuvent faire des petites promenades, ils peuvent lire des livres, et voilà. Donc nous nous soucions de ça, et c'est pour ça que nous avons les psychologues cliniciens et les agents de promotion de la santé, et à chaque fois qu'ils nous recommandent quelque chose, nous faisons un effort de trouver des solutions pour le bien-être de nos patients.
Bien. Alors, est-ce que l'isolement peut durer combien de temps? Est-ce que les membres des familles peuvent passer pour rendre famille à leurs proches qui sont isolés?
Tout à fait. Commençons par l'isolement d'abord en soi. L'isolement, en principe, au bout de 14 jours, si cliniquement la personne est stable, il n'y a pas d'autres soucis, on effectue un deuxième prélèvement, mais en même temps, selon les dernières recommandations que nous avons eues de la commission prise en charge, la personne peut être sortie. Donc, le médecin va évaluer, va oui. voir si au bout de 14 jours, il n'y a aucune plainte, il y a une bonne amélioration. Avant même qu'on puisse avoir les résultats, la personne pourrait être sortie. Ça, c'est selon les toutes dernières informations que nous avons eues de la commission prise en charge. Mais les membres de famille, ils sont autorisés à venir. Les visites sont organisées au moins 3 fois par semaine et ils peuvent venir. Avant d'aller à l'espace, ils vont rencontrer leurs membres de famille. Ils sont d'abord briefés par les agents de promotion de santé, les psychologues. Et les visites sont faites de sorte à ce que la distance soit respectée, la distanciation soit respectée.
Alors prenons le cas d'un patient qui est isolé, mais sa situation se dégrade rapidement et que ça nécessite une prise en charge beaucoup plus grande. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là?
Alors, nous avons prévu pour cela déjà une petite unité de réanimation. Il y a une petite chambre de réanimation qui dispose d'oxygène et de certains matériels pour déjà prodiguer les premiers soins pour le soutien du malade. Mais entre-temps, il y a déjà un système en place pour le référencement. Il y a certains des hôpitaux avec lesquels nous sommes en étroite collaboration. Et dès que le médecin évalue que la situation d'un malade ne permet plus à ce qu'on les garde ici, on organise très rapidement le transfert pour un autre hôpital plus approprié, enfin un autre centre COVID qui prend des cas un peu plus sérieux, des cas modérés ou des cas sévères. Et dans les jours qui viennent, on devrait avoir une ambulance en permanence ici. Le processus est en cours, de sorte qu'on ne puisse pas perdre du temps pour acheminer un patient vers une structure pour une meilleure prise en charge.
Bien. Nous parlons du fonctionnement du centre d'isolement des cas non sévères de COVID-19 à Kinshasa, un centre mis en place par l'Organisation internationale pour les migrations. Est-ce qu'il y a aussi un espace, disons, vous avez dit c'est pour les personnes vulnérables, est-ce qu'il y a, si par exemple il y a des personnes VIP souhaiteraient également avoir un espace dans ces centres, est-ce que cela est faisable?
Bon, pour l'instant, malheureusement, pas encore. Vous comprenez que ça implique un certain coût, ça implique un réaménagement. Mais c'est des questions qui nous ont été posées. Nous comprenons que c'est un souci de certaines personnes, mais bon, on espère qu'avec les plaidoyers que nos partenaires feront, nos partenaires gouvernementaux, et nous-mêmes, l'OIM, nous continuons de plaidoyer, et à travers vous, les médias, s'il y a d'autres bailleurs qui sont prêts à soutenir, pourquoi pas, puisque le centre a une grande capacité. Pour l'instant, on l'utilise à, disons, un tiers de sa capacité. Et on pourrait même aller au-delà des 300 lits, parce que l'espace est vraiment assez grand. Et on pourrait toujours aménager, mais bien sûr, ça dépendra du financement. On comprend ce souci. Et nous y pensons, mais nous sommes un peu limité par les moyens, mais si les moyens le permettent, pourquoi pas, on pourra le faire.
Bien. Alors, pendant l'isolement, la restauration, par exemple, est-ce que c'est à la charge du patient ou c'est le centre qui prend en charge cela?
Alors, la restauration est totalement prise en charge par le centre, à travers nous, l'OIM, puisque le partenariat est fait de sorte que l'OIM s'occupe de l'aspect, disons, logistique, financière, et le partenaire gouvernemental, donc la commission prise en charge du comité multisectoriel, a affecté les équipes médicales pour l'aspect clinique, la prise en charge clinique. Donc, l'OIM s'assure à ce que le patient soit intégralement pris en charge du début à la fin. Et donc, ils n'ont aucun frais à payer, ils sont là jusqu'à la fin et jusqu'à leur sortie, ils ne vont payer aucun rond.
Bien, pour terminer, docteur Jérôme Mumbere, je rappelle d'abord que vous êtes responsable du volet santé à l'OIM. Où est situé ce centre d'isolement des cas non sévères de COVID-19 à Kinshasa?
Oui, alors nous sommes situés sur l'avenue Colonel Moundjiba, au numéro 134. Comme référence, c'est bon, l'arrêt qu'on appelle communément éléphant hein, pour les habitants de Kinshasa et surtout ceux qui fréquentent les communes d'Engalié, Makitambo, ils savent. Donc l'arrêt éléphant, et dès que vous descendez là-bas, vous verrez que c'est bien mentionné, OIM. C'est juste avant d'emprunter le petit pont qui est sur l'avenue Colonel Moundjiba, le pont d'Agamarjol, je crois, excusez-moi. Donc, c'est dans ce secteur-là, et vous ne pouvez pas vous perdre, vous verrez, c'est bien mentionné, OIM, centre d'isolement. Et je ne sais pas si je peux vous donner le numéro. Les gens peuvent toujours nous appeler pour des renseignements.
Oui, allez-y. Un numéro par lequel on peut vous contacter facilement.
Oui, c'est le numéro du centre, le numéro standard. C'est le 081 36 46 677. Je peux répéter rapidement. 081 36 46 677. Donc, les personnes concernées ou intéressées peuvent nous appeler, ils peuvent avoir des plus amples détails.
Bien, docteur Jérôme Mumbere, responsable du volet santé à l'OIM, merci.
Je vous remercie.
Au Capi Service.
Au Capi, Radio Capi.
Le conseil du jour.
Saviez-vous que le sel peut être si pratique, surtout dans la cuisine? Épargnez-vous de l'achat des détergents parfois coûteux et utilisez plutôt le sel des tables pour résoudre ces petits problèmes avec ces quelques astuces que nous propose Thérèse Kankou.
Les taches de graisse pendant la cuisson sont un problème pour la plaque de cuisson, mais encore plus pour les vêtements. Il suffit d'ajouter une pincée de sel à l'huile non chauffée. De cette façon, vous évitez les éclaboussures des graisses gênantes par la suite. Pour nettoyer une poêle brûlée, il suffit de recouvrir le fond de la poêle avec du sel et ajouter de l'eau. Laissez tremper pendant environ 10 minutes, puis portez brièvement à ébullition. Les résidus peuvent ensuite être facilement éliminés à l'aide d'une éponge. Pour nettoyer une éponge, mettez-la dans un bol et ajoutez de l'eau et du sel. Immergez un peu l'éponge dans l'eau et mettez brièvement le bol dans les micro-ondes. Après quelques minutes, l'éponge est comme neuve. Le sel aide aussi à rafraîchir le boisson rapidement. Mettez les glaçons dans une glacière et déposez les boissons dans celle-ci. Maintenant, versez du sel sur la glace. Le sel fait fondre la glace plus vite et l'énergie nécessaire sera puisée dans les bouteilles chaudes, ce qui fait que les boissons sont rafraîchies en un rien de temps. Les canalisations obstruées sont courantes dans la cuisine et dans la salle de bain. Vous pouvez pour cela mélanger de la levure chimique avec du sel et versez-les dans la canalisation. Ajoutez du vinaigre, puis laissez le tout agir pendant environ 10 minutes. Rincez ensuite à l'eau bouillante et la canalisation devrait être à nouveau dégagée. Si vous faites tomber un œuf par terre, versez simplement du sel sur l'œuf. Cela va solidifier la flaque visqueuse de l'œuf et vous pourrez alors l'essuyer à l'aide d'un chiffon facilement.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève le magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Toute l'équipe était en place pour vous servir. Jacques Bosenga à la mise en onde. Tati Mapoukou a assuré la réalisation. Marcel Ngomoumbalakeba à la coordination au micro. Jody Daniel Keshama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Restez branchés sur la fréquence de la paix et excellente condition d'écoute des programmes sur Radio Okapi. On se retrouve juste après dans la deuxième partie de cette émission.